Seigneur, merci de tout cœur pour la parole de Dieu, la Bible. Et Seigneur, maintenant, nous te demandons d'ouvrir nos oreilles, nos âmes, nos cœurs à recevoir cette bonne parole qui est la tienne, Seigneur. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bah écoutez, après ce temps de fête que nous avons passé depuis plusieurs semaines, nous revenons à 1 Timothée, et j'en suis très ravi, donc je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à 1 Timothée, et nous allons aujourd'hui traiter les versets 18 à 20. 1 Timothée 1, 18 à 20, un message que j'ai intitulé « Combattre le bon combat ».« Combattre le bon combat ». Et j'aimerais lire, pour commencer, 1 Timothée 1, 18 à 20. Paul écrit à Timothée et il dit ceci. « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » C'est intéressant de savoir que depuis l'an 3600 avant Jésus-Christ, le monde a connu près de 14 530 guerres. Durant ces 5600 années, il n'y a eu que 292 années de paix, c'est-à-dire que pour chaque année de paix, il y a environ 19 années de guerre. Les Assyriens ont évalué à plus de 100 millions les victimes de leurs batailles et de leurs massacres durant un siècle. Pendant la Révolution française et sous l'Empire, 2 millions de Français ont été tués. On parle de régiments réduits de 2 000 à 6 hommes. La guerre de sécession aux États-Unis, 1 320 000 tués ou blessés. On estime à 2 500 000 morts pour le dernier quart du 19e siècle. Dans l'ensemble, on estime que la guerre 14-18 a causé la mort de 12 millions et demi de personnes de façon directe et tout autant indirectement. Pour la guerre de 39-45, les pertes militaires sont estimées à 15 millions de soldats morts ou disparus, et selon certains auteurs, les pertes directes et indirectes se chiffrent à 100 millions de morts. La Pologne a le plus souffert, avec 22% de sa population décimée. Mes amis, les guerres font rage dans le monde. Cela a toujours été le cas. Elles continuent à l'être aujourd'hui et continueront de l'être jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est la guerre physique entre hommes. Mais la Bible parle d'autres types de combats qui existent dans le monde, tout aussi réels, mais beaucoup moins visibles, mais, écoutez bien, bien plus dramatiques dans leurs conséquences. Le combat spirituel. Parce que le combat spirituel a des conséquences éternel. Et dans l'autre texte, dans 1 Timothée 1, 18 à 20, Paul rappelle à son jeune apprenti Timothée que le ministère chrétien dans lequel il a été appelé n'est pas un voyage touristique, n'est pas une croisière sur la mer Méditerranée. Non. Non, c'est une conscription en tant que soldat dans une guerre brutale qui fait rage et qui n'est pas prête à se terminer. Le ministère est un combat, et un combat dans lequel il faut se battre, mais pas n'importe comment. Et le texte devant nous, c'est trois courts versets, mais remplis de trésors, nous décrivent cinq vérités essentielles de ce combat, des vérités qu'il ne faut jamais oublier, afin que tout soldat conscrit puisse être efficace jusqu'à la fin. Alors regardons ces cinq vérités essentielles. Vous verrez, c'est très simple. Numéro un, la nature du combat. La nature du combat. Le verset 18 dit « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. » Ce qu'on voit vis-à-vis de la nature du combat, c'est premièrement que le combat est bien réel. Il est réel. Vous rappelez, Timothée était un jeune pasteur que Paul avait vraisemblablement amené à Christ. Il l'appelle dans le verset 18 et aussi dans le verset 2, mon enfant ou mon enfant légitime. Et il l'avait laissé à Éphèse pour résoudre certains problèmes qui avaient surgi dans l'église. 2:15, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Alors, il y avait des problèmes à résoudre, et le premier problème à résoudre était un problème d'erreur doctrinale propagé par certains qui faisaient un mauvais usage de la loi. Chapitre 1, verset 3, il dit « Je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine lorsque j'en t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Et on voit dans le contexte que certains utilisaient mal la parole de Dieu et propageaient d'autres doctrines. Et Timothée a été appelé maintenant à corriger ces erreurs qui étaient dans l'Église. Et dans les versets de ce matin, nous voyons que Timothée, je ne pense pas, au début, a reconnu que ou réalisé que les problèmes dans l'Église seraient aussi grands qu'il les encontre. Et je demande s'il se demande lui-même s'il arriverait à les résoudre. Et alors, dans ces versets, Paul revient à ce jeune Timothée pour lui rappeler que le ministère n'est pas fait pour les faiblards. Non, il est fait pour les soldats, car le ministère pastoral n'est rien d'autre qu'un combat dans lequel nous sommes conscrits afin de nous battre. Mes amis, le ministère est ici défini comme une guerre. Nous sommes dans un combat et il ne faut jamais oublier que ce combat est bien réel. Et pour contrer ce découragement, la première chose que Paul fait, c'est de lui rappeler comment il a été appelé au ministère. Et ça, c'est intéressant. Moi, j'aimerais dire vraiment amen à ça. Car dans les moments les plus sombres du ministère, et ça arrivera à tout ministre de Jésus-Christ, quel que soit son ministère, il y a des jours qui sont vraiment sombres. Eh bien, parfois, la seule chose qui reste au ministre de Jésus-Christ, c'est son rappel de son appel. C'est le rappel comme quoi il a vraiment été appelé à ce ministère et qu'il doit se rappeler que Dieu n'a pas promis que le ministère serait une chose facile, mais un combat. C'est pour ça qu'il dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Et là, on a quelques mots, quelques phrases sur l'appel de Timothée au ministère pastoral. Et on apprend que, premièrement, il y a eu des prophètes dans l'Église, et ça, nous savons qu'il y en avait, bien sûr. Car dans Actes 13, 1, il est dit clairement qu'il y en avait. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et les prophètes étaient appelés à parler de la part de Dieu, surtout avant que le canon soit clos, et apporter les révélations de Dieu directement de la part de Dieu. Et dans son cas, il y a eu des prophètes qui ont prophétisé, qui ont parlé du fait que ce jeune homme était appelé au ministère, et nous avons aussi dans 1 Timothée 4:14, un autre petit détail, où Paul dira plus tard à Timothée, « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Apparemment, à un moment donné, des prophètes se sont levés, ont appelé, si on le veut le dire ainsi, ce jeune au ministère, lui ont imposé les mains, il a reçu des dons à ce moment-là. Je pense que l'appel au ministère se passe différemment de nos jours. Pourquoi ? Parce que le canon biblique est clos aujourd'hui. Nous avons toute la parole de Dieu déjà révélée. Je ne pense pas que Dieu appelle les hommes par des révélations extérieures, mais par deux choses. Un désir intérieur et confirmation par l'Église locale. Et ça, on le voit au chapitre 3, verset 1, où il est dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Un évêque ou un ancien est appelé premièrement par son désir de l'être, c'est pas un mal de vouloir être ancien, mais deuxièmement, il désire une œuvre excellente, deuxièmement, ce qui suit, ce sont toutes les qualifications morales qui doivent être présentes dans cet homme, et cela confirmé par l'Église. Et donc, l'appel est sensiblement différent aujourd'hui que le canon est clos. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ces choses ? Eh bien, il rappelle à Timothée son appel. Rappelle-toi, Timothée, tu as été appelé au ministère. Et le ministère n'est pas toujours facile. C'est un combat. Et parlons un petit peu de ce combat qu'il mentionne dans le verset 18, n'est-ce pas? Il dit, à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Le mot, et ça c'est le deuxième point sous le premier point, le combat est théologique. Hein, on a vu que le combat premièrement est réel, deuxièmement le combat est théologique. Très intéressant ici. Le mot combat est le mot grec que vous allez reconnaître, straeia ou strategia, duquel nous dérivons le mot stratégie. Le combat, ce sont des stratégies militaires, on pourrait dire. Alors bien sûr, quand les chrétiens aujourd'hui pensent au combat spirituel, on va d'habitude tout de suite à Éphésiens 6, et on voit là décrit le combat spirituel avec Satan. Hein, vous vous rappelez verset 11 de Éphésiens 6, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et ensuite, il nous donne l'armure à porter pour faire face aux ruses du diable. Et ça, si vous voulez, on a analysé ça en 4 messages en septembre 2008. Donc, on ne va pas revenir dessus. Donc, il y a un combat, ce que j'appellerais un combat satanique, Éphésiens 6. Mais ici, nous avons un combat quand même un peu différent, bien qu'ils soient similaires sur beaucoup de points, mais ce que j'appellerais un combat théologique à mener. Voilà, il est différent ici par rapport à Éphésiens 6, dans le sens que dans Éphésiens 6, nous avons un combat entre nous et Satan, quelque part. Et ici, c'est un combat à mener contre l'erreur, contexte, contre l'erreur. C'est un combat qui se passe dans notre intelligence et dans notre cœur. Vous allez voir, ça va être très clair. Alors déjà, on sait que c'est vrai, ce que je viens de dire, que c'est un combat théologique ici, parce que premièrement, il y a le contexte de la loi. Verset 7 de 1 Timothée 1, ils veulent être docteurs de la loi, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc ces gens dans l'Église propageaient des erreurs liées à une mauvaise utilisation de la loi. Donc ça, c'est le contexte. On voit au verset 19 aussi que ce combat théologique est lié à la foi et à la conscience. On y reviendra. Au verset 20, on voit aussi que ce combat est lié au blasphème, parce que Alexandre et Hyménée doivent apprendre à ne pas blasphémer. Mais surtout, si on reprend ce même mot, on le voit dans 2 Corinthiens 10, 3, la seule autre occasion où on voit ce mot combat tête dans cette forme, dans 2 Corinthiens 10, 3, il nous explique quelque chose de très intéressant. Il dit, 2 Corinthiens 10, 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons, voilà le mot, pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Tiens, c'est intéressant. Donc, on reçoit des armes pour renverser des forteresses, nous dit le verset 4. Alors, ça veut dire quoi? Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ensuite, il dit, et nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc, il est en train de dire quelque chose de très intéressant ici. Les armes que nous recevons dans ce contexte, ce ne sont pas des armes physiques, mais des armes qui nous aident à renverser des forteresses. Et ces forteresses sont décrites comme étant le raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, c'est un combat qui est mené contre l'erreur théologique. Très intéressant. Et nous devons donc amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ pour punir toute désobéissance. C'est intéressant, on voit ça au verset 2 Corinthiens 11, 3. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent en se détournant de la simplicité à l'égard de Christ, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, il les gronde, il leur dit, vous le recevez fort bien, mais vous ne devriez pas le recevoir. » Donc on voit ici de nouveau le contexte d'un débat ou d'une confrontation ou d'un combat théologique. Alors il faut se poser la question, mes amis. Tout chrétien doit se poser premièrement la question, est-ce que ma connaissance de Dieu est juste? Est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu, vraiment? C'est une question capitale. Et deuxièmement, est-ce que ma vie est une vie d'obéissance vis-à-vis de cette connaissance de Dieu? Donc on voit que le combat est théologique et moral. Théologique et moral. Dernière chose que nous apprenons sous ce premier point, la nature du combat, le combat est réel, théologique, et troisièmement, le combat est bon. Très intéressant, hein, n'est-ce pas? Comme il le mentionne ici, il lui dit que tu combattes le bon combat. Et ce mot bon, très intéressant, kalos, c'est le même mot utilisé pour décrire, par exemple, une perle dans Matthieu 13, 45. Bon, je suis pas très bon en reconnaissance de perles, mais ceux qui s'y connaissent regardent deux perles et ils se disent, ah, celle-là elle est bonne, celle-là elle est mauvaise. Ils reconnaissent. Il y a quelque chose d'intrinsèquement bon dans une bonne perle. Le mot est utilisé pour la terre ou un bon fruit. Dans Matthieu 3, 10, un bon fruit. Vous regardez un bon fruit, un fruit pourri, vous dites, ah, ben celui-là, il est bon. Parce qu'il est intrinsèquement bon. On reconnaît un bon fruit. Alors, peut-être vous allez mieux comprendre cette illustration. Dans Jean 2, 10, il est parlé d'un bon vin. D'accord? Alors, il y a des bons vins, il y a des mauvais vins. Il y a des vins qui sont intrinsèquement bons et d'autres pas. Ben, c'est le même mot ici. Il y a certains combats qui sont bon. Et ça, ce combat théologique, mes amis, il est bon. C'est un bon combat. Il ne faut jamais avoir honte d'être précis théologiquement pour comprendre ce que la parole de Dieu veut vraiment dire par ce qu'il dit. J'ai lu un article récemment dans un journal qui s'appelle La Vie protestante. Voici l'optique religieuse populaire de nos jours. Lecteur écrit ceci. Les religions adorent-elles le même Dieu? Parce que toutes les religions du monde, finalement, on a le même Dieu. Et on l'adore de la même manière. Eh bien, voici ce que cette personne dit. Dieu dépasse infiniment toutes les religions. Il ne se laisse enfermer dans aucun dogme, aucune institution, aucune loi. Il est l'au-delà de tout et nous ne pouvons que tendre vers lui et en balbutiant. Toutes les religions et voies spirituelles sont là pour nous aider à atteindre ce Dieu en proposant un chemin pour vivre en relation avec Dieu. Ça, c'est dans la vie protestante. Vous savez ce qu'il dit? Écoute, toutes les religions mènent au même Dieu. Alors, j'ai un petit problème avec ça. C'est pas moi qui l'a, en fait, c'est Jésus qui l'a. Parce que dans Matthieu 23, Jésus dit quoi? Il parle aux pharisiens. C'était les juifs à l'époque. Et il dit à Matthieu 23, 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, écoutez bien ce qu'il dit, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Et verset 15, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, pour le convertir, et quand il est devenu converti, vous en faites un fils de la gêne, deux fois plus que vous. » J'ai pas l'impression, d'après cette lecture sommaire de ces textes, que Jésus est d'accord que toutes les religions mènent au même Dieu. Voyez, mes amis, c'est un problème théologique. C'est un problème de vérité. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici, au verset 18 de 1 Timothée 1. Combat, le bon combat, le combat théologique, car cela a des implications éternelles, éternelles pour les gens que tu enseignes. Donc voilà, premier point, la nature du combat. Qu'est-ce qu'on apprend encore sur le combat ici? Deuxièmement, les armes du combat. Les armes du combat. Quelles sont les armes que nous avons pour combattre ce bon combat? Verset 8, 18, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. C'est intéressant. Grammaticalement, l'ordre de combattre est suivi en grec de deux participes de circonstances qui révèlent comment nous devons combattre. En gardant la foi et en gardant une bonne conscience. Voici nos armes, mes amis, de garder la foi, garder une bonne conscience. Alors, essayons de comprendre ce que ça veut dire. La foi. Au fait, c'est un duo qui revient souvent. Par exemple, au chapitre 1, verset 5, il dit « Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Donc, on voit ce duo foi-conscience surgir souvent dans les Écritures. Alors, lorsqu'il dit la foi, en gardant la foi, c'est notre première arme pour combattre ce combat théologique. Le mot « foi » ici est probablement une référence à la croyance ou ce qu'on appelle la foi chrétienne. Au chapitre 1, verset 2, il dit « À Timothée, mon enfant légitime en la foi ». Et donc, c'est vraiment une description de la foi chrétienne. Voilà tout ce qui est résumé dans la parole de Dieu comme étant la foi, la légitime foi. Et donc, tout ce qu'il est en train de dire ici au verset 19, c'est que la première arme que nous avons, c'est simplement de rester fermement attaché à la foi chrétienne, la vérité chrétienne telle qu'elle est révélée dans le canon des Écritures, la Bible. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué dans la compréhension de ce qu'elle est en train de dire, n'est-ce pas? Simplement d'être fidèle à la Bible, fidèle aux Écritures. La conscience, il dit, maintenant ça c'est la deuxième arme, garder une bonne conscience, c'est quoi? Ce mot est vraiment fascinant. Une bonne conscience ou une conscience. Dictionnaire définit conscience comme ceci. Faculté ou fait de porter des jugements de valeur morale sur ses actes. Alors la conscience, c'est quoi? Vous avancez dans la vie, vous faites quelque chose, une action, et tout d'un coup, il y a un sentiment de culpabilité qui commence à surgir dans votre cœur. Bienvenue à la conscience. Ça, c'est la conscience. L'état de celui qui estime n'avoir rien fait à se reprocher, c'est une bonne conscience. C'est le résultat, donc, de vivre quoi? Une bonne conscience, qu'on n'a rien à se reprocher, c'est le résultat de vivre une vie pure, conforme, dans le contexte, aux exigences de Dieu, où notre auto-évaluation morale affiche que nous avons été droits devant Dieu. J'ai rien à me reprocher parce que je crois avoir été droit devant Dieu. Ça, c'est une bonne conscience. Quelque chose de précieux. Dans Actes 24, 16, Paul dit quoi? C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Paul voulait être pur et droit devant Dieu et devant les hommes. Et donc, il cherche à avoir une conscience pure devant Dieu et les hommes. En fait, pour décrire la conscience, il faut faire le parallèle entre la conscience et la douleur. Si vous mettez votre doigt dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Aïe. Hein? Et la chose qui suit le aïe, c'est quoi? C'est le réflexe de sortir le doigt de la flamme. Bienvenue au monde de la douleur. La douleur, c'est une chose merveilleuse, mes amis. Dieu nous a donné la douleur pour nous avertir de dangers physiques. Quand vous avez mal dans votre corps et vous allez chez le médecin, il vous dit, alors qu'est-ce qui se passe? Vous dites, j'ai mal. C'est important qu'il le sache. Parce qu'il va vous dire, vous avez mal où? Alors vous lui dites, et lui, il commence à faire son analyse pour voir d'où vient ce mal. Le mal est une chose extraordinaire. Vous devriez remercier le Seigneur lorsque vous avez mal. Et de la même manière, lorsque la conscience agit en nous, c'est un don de Dieu pour nous avertir que moralement, nous suivons une mauvaise voie. Et cette mauvaise conscience, c'est lorsque cette conscience nous accuse et nous révèle que notre âme va mal, qu'elle est malade et que nous sommes sur une voie qui va à l'encontre de la droiture prescrite de Dieu. Que nous agissons à l'encontre de la volonté de Dieu. Et nous envoie ces messages constamment. Attention, attention, attention. Et dans 2 Corinthiens 1, 12, il est dit « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience ». Que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Voyez-vous, il est en train de remercier le Seigneur pour sa conscience qui l'aide à vivre une vie droite vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Alors attention, il y a un gros problème avec la conscience. Un très gros problème. C'est la suite du verset 19. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Mes amis, on peut perdre sa conscience. On peut émousser sa conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la conscience surgit en nous et s'alarme, on peut faire le choix de dire « tais-toi, arrête ». Je veux rien savoir de ce que tu es en train de me dire. Et on continue sur la voie et on ignore notre conscience. Ce serait de la folie de le faire pour la douleur. Ce serait de la folie. Et pourtant, combien de gens le font vis-à-vis de leur conscience? Ils l'ignorent, ils la repoussent. Et ceci peut avoir des résultats catastrophiques, et on va le voir dans quelques minutes, avec deux hommes en particulier dans cette église, Hyménée et Alexandre, qui avaient perdu leur conscience. Ils ne voulaient rien savoir de l'erreur théologique et morale dans laquelle ils avançaient. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'erreur doctrinale cache souvent une faille morale. Souvent, ces deux choses sont pareilles. Quand quelqu'un est vraiment dans l'erreur théologique, on peut se poser la question, tiens, est-ce qu'il y a une faille morale dans sa vie où il essaye de changer sa doctrine pour justifier sa faille morale? Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, on le voit dans 2 Pierre 2, par exemple, où l'immoralité était liée à l'erreur doctrinale. 2 Pierre 2, 1, il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisieusement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux la ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voie de la vérité sera calomniée à cause de par cupidité. Ils trafiqueront de vous un moyen de parole trompeuse, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Faille morale menait à une faille doctrinale. Donc lorsque vous voyez quelqu'un dans l'erreur doctrinale, je pense que ce n'est pas un mal de se poser la question, tiens, y a-t-il là un problème moral? Donc écoutez, ça doit être les deux des piliers de notre Église. C'est vraiment important pour chacune de nos vies. Droiture doctrinale, intégrité morale. Nous avons besoin les uns des autres pour nous aider dans ces deux domaines. 3. Combattre le bon combat. Premièrement, la nature du combat. Deuxièmement, les armes du combat. Et troisièmement, les dangers du combat. Les dangers du combat. Ben, comme je viens de le dire, il y a deux grands dangers. Premièrement, on peut perdre sa conscience. C'est ce qu'il dit, cette conscience, verset 19, « Quelques-uns l'ont perdu. » Et le mot est intéressant, c'est le mot « repoussé ». Ils l'ont littéralement repoussé. Et deuxièmement, deuxième danger du combat, regardez ce qu'il dit, verset 19, « On peut faire naufrage par rapport à la foi. » Et de nouveau, voici ce qui s'est passé avec deux hommes, en tout cas dans l'église, à Éphèse. Ils ont fait naufrage à la fois. Alors, ça veut dire quoi? Alors, le mot naufrage vient de deux mots grecs. Naus, qui veut dire navire ou bateau, et agnoumi, qui veut dire cassé ou brisé. C'est un bateau qui se brise. Alors, la question se pose donc, alors, ces deux naufragés, par rapport à la foi, Alexandre et Hyménée, ou Hyménée et Alexandre, étaient-ils des vrais chrétiens? Je reviendrai sur cette question dans quelques minutes, d'accord? Retenez-la. Étaient-ils des vrais chrétiens? Parce que nous allons voir que les prochaines étapes vont le révéler, en fait. Très simplement. Suivez, d'accord? Alors, on passe maintenant au quatrième point. On a vu la nature du combat, les armes du combat, troisièmement, les dangers du combat. Maintenant, quatrièmement, les victimes du combat. Qui sont les victimes du combat? Il y a deux hommes. Premièrement, Hyménée. Hyménée. Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui? Pas grand-chose, sauf si vous allez à 2 Timothée 2, 16. Là, on apprend deux, trois choses sur lui. Probablement le même homme. 2 Timothée 2, 16. Paul écrit « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. » Donc, de nouveau lié à une erreur théologique. « Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. » Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Premièrement, alors là, c'est Hyménée, Philète, pas Alexandre, mais c'est probablement le même Hyménée. On apprend premièrement qu'il tenait des discours vains et profanes. Très intéressant, petit détail dans le verset 16, il avançait toujours plus dans quoi? Dans l'impiété. Problème moral ici. Ils avançaient toujours plus dans l'impiété. Ils s'étaient détournés de la vérité et ils disaient que la résurrection était déjà arrivée. Le résultat, c'est qu'il renversait la foi de quelques-uns. Alors, vous dites, attends, moi je comprends pas trop, c'est quoi cette erreur théologique? Alors, Apparemment, il enseignait que la résurrection corporelle qui est prévue à la fin des temps était déjà arrivée. En fait, pour eux, la résurrection de l'homme n'était pas liée à une résurrection physique, mais purement spirituelle. Pour eux, il n'y avait pas en fait de résurrection physique, simplement spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient que le corps était négatif. C'est une optique basse du corps et ils préconisaient que le corps matériel était mauvais. Donc, il ne fallait pas compter sur une résurrection du corps qui, par nature, était mauvais, selon eux. Alors, vous dites, bon, ben, est-ce que c'est vraiment grave ? Alors, oui et non. Enfin, oui, c'est très grave. Parce qu'une telle doctrine peut avoir un effet négatif sur un chrétien. Premièrement, ça peut minimiser ta perception de la résurrection et donc de la résurrection de Jésus-Christ. Tu peux dire, s'il n'y a vraiment pas de résurrection de mon corps, ben, pourquoi est-ce que Jésus, lui, a dû ressusciter physiquement ? Il y a une incohérence, là. On peut se poser la question, alors est-ce que je vais, moi, franchement, ressusciter à la fin des temps ? Vais-je revoir mes bien-aimés ? Mon éternité m'est-elle vraiment assurée ? Mais voici la clé. Si on pense que notre corps, une fois qu'il meurt, n'a aucune résurrection finale, il n'y aura pas un nouveau corps, comme nous dit en Corinthiens 15, on peut se poser la question, mais alors pourquoi devrais-je travailler ma conscience ? Pourquoi devrais-je passer mon temps à vivre une vie pure si de toute façon mon corps est mauvais et ne va pas ressusciter ? Ça sert à quoi ? Et c'est apparemment ce qui se passait ici parce qu'ils avançaient toujours plus dans l'impiété et ils renversaient la foi de quelques-uns. Les gens ne se disaient, mais ça sert à quoi finalement le christianisme ? Et le verset 15 nous montre que Hyménée avait erré dans son utilisation de la parole de Dieu, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ce n'est pas ce qu'il avait fait. Donc ça, c'est pour Hyménée. Pour Alexandre, il y a un autre Alexandre mentionné dans 2 Timothée 4, 14. On ne sait pas si c'est le même ou pas. Paul dit ceci de lui, 2 Timothée 4, 14, « Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » On ne sait pas si c'est le même, mais je crois qu'ils avaient quand même un problème similaire, s'ils étaient deux hommes différents. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces deux hommes, au début, apparemment, semblaient aller bien dans le Seigneur. Ils étaient probablement ou possiblement des leaders dans l'église d'Éphèse. Et on apprend qu'ils ont un jour fait naufrage par rapport à leur foi, par rapport à leur vie chrétienne. Et ça, ça mène en fait au dernier point. Et c'est là celui qui me fait presque le plus peur dans, dans tous ces versets. C'est la brutalité du combat. La brutalité du combat. Il dit au verset 20, « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Mes amis, les conséquences de l'erreur doctrinale et morale sont terribles. Alors, la question qui se pose ici est la suivante. Que faut-il faire dans une église lorsque quelqu'un s'écarte de la foi et enseigne l'erreur, et ou décide de vivre dans l'impiété ou l'immoralité ? Que faire ? Alors, de nos jours, l'optique semble être, celle qui semble être la plus populaire dans beaucoup d'églises, c'est ceci. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont peut-être dans l'erreur doctrinale ou l'erreur morale ? Réponse, rien. Il ne faut rien faire. Et sous quel prétexte faut-il rien faire ? Ah, ben ça c'est facile. 1 Jean 4, 8 nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et dans Matthieu 7, verset très très populaire à citer, verset 1, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. » Dieu est amour, il aime tout le monde, même le pécheur qui dévie dans l'erreur doctrinale et peut-être l'immoralité. Et de toute façon, il ne faut pas juger. Donc il faut laisser faire. Ça fait rire, mais c'est très populaire ça dans les églises aujourd'hui, très très populaire. J'ai un problème avec cette thèse parce que dans Matthieu 7, hein, lorsqu'il dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés », car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alors vous dites, bon, bah, il ne faut jamais juger quelqu'un. Mais il faut lire la suite, prochain verset. Il nous dit le contraire, il nous dit de juger maintenant. Regardez ce qu'il dit. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Alors voilà, les gens ils disent, ben voilà, alors puisque moi j'ai des problèmes dans ma vie aussi, je suis pas parfait, qui suis-je pour aller parler avec quelqu'un d'autre de son problème? Ben continue de lire. Hypocrite. Regardez ce que Jésus dit maintenant. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Il ne dit pas, ben alors fais rien, il dit, mais écoute, alors règle le problème dans ta vie et va parler avec ton frère. Aide-le à régler le problème dans sa vie. Ce n'est pas compliqué. Et on voit très bien que cette interdiction ne s'applique pas à tous les jugements, parce qu'il dira plus tard, vis-à-vis des faux prophètes, verset 16 du même chapitre, Matthieu 7, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur les chardons ?» Donc il faut bien reconnaître le fruit, il faut bien faire un jugement, il faut bien regarder et se dire « Ah, bien, mal ». Non, ce que Jésus est en train de dire dans les versets 1 à 3, c'est que les jugements injustes, hypocrites, empreints d'une propre justice ou nés d'un esprit de critique, sont, elles, à proscrire. Il est en effet nécessaire, afin de pouvoir accomplir les commandements qui suivent, de savoir discerner, et là il le dira encore dans les versets 6, les chiens des pourceaux. Il faut pouvoir voir le vrai du faux. Il faut déterminer, et ensuite il faut agir. Et moi, j'ajoute que si on ne doit rien faire par rapport à ceux qui pêchent dans l'Église, alors franchement, je suis un peu perplexe par rapport à ce que Paul fait ici dans 1 Timothée 1:20. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit de ce nombre, Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Bah, c'est quand même radical ça, non? Oui, c'est radical. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment appliquons-nous ces versets dans notre Église? Allez avec moi à 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, c'est un autre endroit où nous avons le même problème dans une église et la même prescription vis-à-vis de personnes qui péchaient dans l'église. 1 Corinthiens 5, 1 nous dit ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc, un homme, t'es ou bien divorcé ou veuf. Non, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il était divorcé, ou il était marié, en fait, et séparé, et le fils couchait avec, pas sa mère, mais la femme de son père. Donc, renouveau mariage. Ça, c'était le problème. Et l'Église se disait, non, mais nous, on est Église moderne. Nous, on ne dit rien. On laisse faire. Dieu les jugera. Alors, Paul les gronde, il dit, et vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis un acte, cet acte soit ôté du milieu de vous. Et ensuite, il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si je n'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alors c'est très important, Paul considérait cet homme chrétien, parce qu'il pense qu'il va être sauvé au jour de Jésus. Mais cet homme vivait d'une telle manière que c'était un problème pour l'Église, donc il dit, mettez cet homme dehors, mettez-le dans le domaine de Satan, ôtez-le de la protection quelque part de l'Église, mettez-le dans le domaine de Satan, il sera peut-être même tué par Satan, mais son âme sera sauvée. Je pense qu'il pensait qu'il était vraiment et authentiquement chrétien. Verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Si vous ne faites rien, mes amis, ça va contaminer toute l'Église. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et il dit, verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des débauchés. Non pas une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Il dit, attendez voir, il faut que vous ayez des contacts avec les non-chrétiens qui vivent des vies de débauche, de cupidité, etc., parce qu'il faut bien les amener au Seigneur. Mais, verset 11, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère et débauché, et cupide, et idolâtre, et outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, et de ne pas même manger avec un tel homme. Celui qui se prétend être chrétien, qui dit qu'il est frère et qui vit comme cela, ça non. Il ne faut même pas manger avec lui. Qu'en ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Vous ôtez le méchant du milieu de vous. C'est radical. C'est vraiment radical. Donc lorsqu'un chrétien dans l'Église décide de vivre dans un mode de vie qui reflète plus le monde que l'Église, alors la sanction finale, la dernière étape, après que toute autre solution ait été proposée, sans pour autant que le pécheur veuille se repentir, est de livrer cette personne à Satan. Qui veut dire qu'il est officiellement exclu de l'Église, n'en fait plus partie. Et donc, comme je viens de le dire, il n'est plus sous la protection de l'Église, mais il est livré aux mains de Satan. Alors notez bien, le but de cette étape n'est pas condamnatoire, mais elle est restauratrice. La clé, c'est que cette étape est restauratrice. Le but, c'est de restaurer ce pécheur, de l'aider. Et c'est ce que Paul dit dans 1 Timothée 1:20, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Le but, c'est d'aider ce chrétien à revenir sur la voie juste et droite. Vous dites, mais John, là c'est vraiment drastique, quoi. C'est vraiment drastique, c'est radical. Est-ce qu'on commence à virer les gens et on leur dit, voilà, toi tu vas dans le monde de Satan, toi tu restes, toi tu pars? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on fait? Écoutez, merci Seigneur, il nous a donné, il nous a prescrit la manière de le faire. Allez vite avec moi à Matthieu 18. Regardez, c'est tellement super la Bible parce que ça nous explique comment procéder à ce genre de situation. Je pense que c'est vraiment important de le savoir. Encore quelques versets, d'accord? Verset 15 de Matthieu 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Voilà comment on fait. Tu es dans l'église et un jour tu vois qu'un frère ou une sœur pêche. Pour toi c'est clair? Donc, toi et lui, vous allez quelque part tout seul et vous en parlez. D'accord? Tu vas voir ton frère et tu lui dis, frère, sœur, il y a un péché dans ta vie et j'aimerais vraiment t'aider à le régler. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Fini, terminé. Dis, ah, merci frère, merci sœur, j'ai pas vu, c'est une faille dans ma vie. Ah, vraiment, je te remercie, c'est super ce que tu viens de me dire. Je veux vraiment régler mon problème. Terminé, on n'en parle à personne, c'est fini. Mais s'il ne t'écoute pas, non, qu'est-ce que tu racontes? C'est faux ce que tu me dis. Bon, il y a un petit conflit qui se met en marche. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Tu es convaincu qu'il y a vraiment un péché, donc tu prends deux personnes ou une personne. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Des personnes qui sont témoins, et vous y allez à deux ou trois, et ça met, c'est vrai que ça accroît la pression un petit peu. Et on dit à cette personne, écoute, là, on voit un problème dans ta vie, est-ce que tu veux le résoudre? Alors, si la personne dit, ah, merci frère et sœur, c'est super. C'est fini. Se repent, on n'en parle plus. Mais, s'il n'écoute pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 17, s'il ne t'écoute pas, dis-le à l'église. À un moment donné, alors on informe toute l'Église. Voilà, il y a telle et telle personne qui commet tel et tel péché, ça a été confirmé par les témoins, cette personne ne veut pas se repentir. Et alors l'Église maintenant est appelée à aller aider à cette personne à reconnaître son péché et à se repentir. Il est dit, s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen publicain. Si maintenant l'Église va voir cette personne et cette personne ne veut rien savoir, la prochaine étape c'est de considérer cette personne un païen publicain. Ça veut dire quoi? C'est simple, c'est de dire, écoute, tu as choisi de vivre ta vie comme un païen et un publicain en tant que chrétien. Donc, dorénavant, officiellement, nous te considérons un païen et un publicain. Parce que tu vis comme un païen et un publicain et tu ne veux pas te repentir. Et ça implique que cette personne est mise hors de l'Église. Cette étape, ce serait l'étape conjointe à 1 Corinthiens 5 et 1 Timothée 1:20, où cette personne est ôtée de l'Église, elle est mise dans le monde de Satan. Vous savez, ça fait tellement peur de faire ça en tant qu'Église que les prochains versets sont là. Merci Seigneur, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Si vous faites ça, ne vous en faites pas, le ciel agit avec vous. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. De nouveau, le Père agit avec nous dans cette démarche. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, dans le contexte de la discipline, je suis au milieu d'eux. Même le Seigneur Jésus est là et approuve cette démarche. Certains diront, mais c'est tellement cruel de dire publiquement comme ça. Oui, mais c'est intéressant que Paul, ça j'ai vraiment pensé à ça, au verset 20, il dit « De ce nombre sont-ils nés à l'exemple que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Vous savez, Ça fait plus de 2000 ans qu'on a le nom de ces pécheurs, la nature de leurs péchés, comme quoi ils ont été livrés à Satan pour que 2000 ans de génération le savent encore. Je ne pense pas que Paul avait un problème de dire les choses publiquement lorsqu'elles devaient être dites publiquement. Alors ma prière, mes amis, c'est que cela n'arrive jamais dans l'Église internationale à Genève. Jamais. Qu'on soit tellement liés les uns avec les autres quand, et on va pécher. Mais lorsque ce péché se fait, peut-être de manière régulière, et qu'un frère ou une sœur vient nous voir, et je me mets dans le nous, qu'on les accueille, on les remercie très vite pour ce service qu'ils nous rendent. Parce que moi, la plus grande peur que j'aurais, c'est que quelqu'un dans cette église perdrait sa conscience et ferait naufrage par rapport à la foi. Alors je réponds à la question, alors était-il chrétien ? Il met Alexandre, c'est simple. C'est simple. En fait, on ne le sait pas. Si ils se sont repentis plus tard, probablement qu'ils l'étaient. S'ils ne se sont pas repentis, probablement qu'ils ne l'étaient pas. Ou bien ils se sont convertis à ce moment-là, ça c'est aussi possible. C'est le fruit qui révèle si un chrétien est chrétien. Alors est-ce que tout chrétien peut pécher ? Oui, mais il reviendra. Il reviendra. Un vrai chrétien revient. Il y a un exemple classique dans la Bible de quelqu'un qui était perçu comme chrétien, mais qui ne l'était pas, même après multiples confrontations. Judas. Judas, un des 12 disciples, ne s'est jamais repenti. Et pourtant, pendant 3 ans, il a fait croire qu'il était chrétien. Écoutez, mes amis, le combat est brutal. C'est le combat spirituel. Que le Seigneur nous aide à utiliser les 2 armes, la foi et la conscience, afin que personne ne la perde et que personne ne fasse naufrage. Amen. Seigneur, merci de tout cœur pour ce texte absolument fabuleux, Seigneur. Aide-nous à l'appliquer. Et Seigneur, aide-nous à être un peuple qui aimons la parole et qui aimons vivre une vie en pleine conscience devant toi, Seigneur. Et nous te remercions au nom de Jésus-Christ.